Père, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France. Voilà, Père, on est avec vous quelques instants sur l'antenne de Radio Maria France pour vous connaître un peu, surtout avoir votre témoignage sur votre parcours de foi. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Oui, je suis d'origine de Paris d'Ouest, puisque je suis de Saint-Cloud. J'ai fait mon séminaire à Caen, pour le diocèse de Bayeux-Lisieux, et puis ensuite je me suis posé un peu, j'ai fait différents postes de direction d'établissement, pour terminer, pour être ordonné pour le diocèse de Créteil, où je me trouvais comme directeur d'établissement, le 20 juin 2010. Donc je suis un jeune prêtre malgré mon âge. Voilà.
D'accord. Alors justement, Père, comment, si on revient un petit peu en arrière dans votre parcours, comment c'est né, quelles ont été un peu les étapes avant que vous puissiez avoir cette vocation sacerdotale qui est la vôtre aujourd'hui?
Oh ben, le parcours, il a été assez simple. Je raconte toujours l'anecdote parce que j'étais en CP, donc vous voyez, j'étais très jeune et mes parents me disent « qu'est-ce que tu veux être plus tard ?» Et alors je réponds « oh ben, infirmier comme maman ». Et alors maman me répond « ah ben non, si tu veux être infirmier, il faut vivre ». Il faut être pape, faut, avant d'être pape, il faut être prêtre. Donc voilà, c'est je disais, cette vocation, cet appel du Seigneur qui était là et qui mûrissait non sans humour, mais qui mûrissait. Ça a toujours été une question que j'ai portée dans mes études, collège, primaire, collège, lycée, à tel point que quand on me proposait en troisième les orientations professionnelles, le professeur avait dit « vous cherchez vos orientations professionnelles, quoi, vous faites un devoir ». Et moi, j'avais fait le devoir directement. Du coup, le professeur avait été un petit peu désarçonné, avait dit à ma mère « mais on ne sait pas ce qu'il veut faire ». Ma mère lui répond « si, c'est très bien, il va aller au séminaire, mais comme il ne voulait pas vous en parler, il a fait son devoir ». Voilà, c'était ça, c'était cette conscience du dialogue avec Dieu. Alors, il y a eu des choses qui sont passées, notamment, mes parents m'ont offert une Bible. J'étais en cinquième et je me suis dit, si on m'a offert une Bible, c'est qu'il faut que je la lise. Donc, tous les jours, je priais en lisant la Bible, ce qui m'a permis de la lire en 2 fois et demi en un an, à peu près. C'était un moment de reconnaissance de Dieu. Bon, ensuite, il y a eu le lycée, et puis il y a eu des vrais questionnements. Et moi, j'avoue que j'ai été très porté par le psaume 109. Tu seras prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Voilà. Je me demandais, mais est-ce que je dois vraiment être prêtre? Voilà, donc j'ai eu ce parcours. Et puis tu es arrivé... Arrivé à la terminale, et là, ça s'est un petit peu compliqué parce que depuis 5-6 ans, j'étais dans les groupes du renouveau charismatique. Et les groupes du renouveau charismatique, à cette époque-là, n'étaient pas forcément très bien reconnus. Donc, il m'a été difficile de rentrer au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Et donc, je suis rentré au séminaire de Caen parce que j'avais un prêtre charismatique qui s'appelait Michel Sentier qui a dit nous, qu'il soit charismatique ou pas, ça ne nous dérange pas. Voilà comment s'est passée ma vocation. Et puis ensuite, j'ai fait mon séminaire de premier cycle en philosophie, c'est assez bien passé. La théologie, j'ai été en Afrique 2 ans, puis le retour et en théologie. Il y a eu des grosses questions intérieures et il a fallu prendre un peu de recul par rapport à ce qui se vivait. Donc, au bout de 3 ans, j'ai dit il faudra qu'on regarde les choses autrement. Et donc, j'ai commencé à enfin voilà, j'ai été adjoint pastoral dans un établissement scolaire à Évreux, puis j'ai occupé les postes de direction un peu partout dans le social, dans l'animation socio-culturelle et puis dans le médico-social. Voilà un peu mon parcours de foi.
Père, oui, tous ces postes, vous les avez occupés pendant combien d'années alors?
Écoutez, j'ai commencé à Évreux en 97, c'est ça, et j'ai eu plusieurs postes. Ça s'est succédé à Évreux. Alors à Évreux, c'est vrai que j'ai démissionné pour faire une expérience communautaire, mais qui ne s'est pas avérée très concluante. Donc j'ai retrouvé un autre poste. J'ai toujours porté cet appel sacerdotal, mais je voyais pas trop comment le vivre.
Et finalement...
En fait, la difficulté dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, que j'avais dit à l'évêque, hein, très clairement, je me voyais pas vivre seul dans un presbytère. Très clairement, c'est ce que lui ai dit. Je lui ai dit, moi, je me vois pas trop. Il m'a dit, oui, mais moi, je peux pas t'assurer que tu seras toujours avec quelqu'un dans un presbytère. Voilà, c'était un petit peu ça mon inquiétude. Alors, c'est vrai que j'avais cette réflexion-là parce que j'avais été en Afrique et que j'avais vu que des missionnaires qui restaient seuls dans leur mission pendant 20 ou 30 ans, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Donc, j'avais bien pris conscience de cela. Ceci étant dit, après, dans ma vie de célibataire, j'ai vécu seul dans mon appartement sans que ça me pose des grosses questions existentielles. Donc je me suis dit, voilà, je me suis peut-être fait un ballon de baudruche qu'il fallait juste dégonfler, c'est ce qui a peut-être permis ce temps de mûrissement intérieur.
Oui, parce que père, vous avez été ordonné finalement au bout de combien de temps, à peu près quel âge?
Alors, j'étais le 20 juin 2010, j'avais 44 ans. J'avais 44 ans et j'étais sur le diocèse de Créteil depuis 10 ans, depuis 2003, enfin depuis 7 ans, depuis 2003, comme directeur d'établissement d'une maison de retraite, ce qu'on appelle un EHPAD.
Tout au long de ce parcours, est-ce qu'il y a, quelles ont été un petit peu les rencontres, peut-être humaines, mais aussi peut-être, est-ce qu'il y a eu des saints qui vous ont accompagné tout au long de ce parcours?
Oui, il y a eu des personnes qui m'ont accompagné. J'ai été bien accompagné par les frères de l'abbaye du Bec-et-Loing, où j'avais une attache assez particulière. Et puis j'ai eu des personnes qui m'ont aidé sur un cheminement en me reposant les questions, en disant de ne pas courir partout, mais se poser, se questionner. En fait, c'est ça qui est toujours un peu curieux dans ces histoires-là. Quand j'ai dépassé la quarantaine, je me suis dit, va falloir quand même réfléchir à autre chose ou vivre les choses autrement. Et c'est là que tout s'est ouvert.
Donc des rencontres également, des figures de saints, de saintes.
Oui, alors notamment Sainte Thérèse de Lisieux, d'abord parce que j'étais du diocèse, forcément je l'ai lu, puis ensuite elle m'a accompagné. Avec Sainte Thérèse de Lisieux, j'ai découvert la Madre, Sainte Thérèse d'Avila. Tout passe, Dieu seul suffit. Tout passe, voilà, vraiment, tout passe, ne pas s'inquiéter de l'aujourd'hui, mais aller à l'essentiel, Dieu seul suffit, l'essentiel est là. Et j'ai redécouvert aussi Saint Jean de la Croix. Alors c'est vrai que, Saint Jean de la Croix, c'est... Et du coup, dans mes écrits d'ailleurs aujourd'hui, on le voit, je cite aussi les maîtres Renaud Flamand, comme Maître Écart, comme Jean Tolère, c'est dans la vie spirituelle, c'est des visages qui m'aident, par leurs écrits et leurs exemples, à comprendre cette profondeur de Dieu. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est en perte de sens dans ce que nous faisons. Et retrouver du sens, c'est remettre Dieu en premier. Vous voyez, une mauvaise lecture des vierges folles et des vierges sages, c'est de ne pas comprendre que la folie, c'est d'abord l'impiété. C'est d'être sans Dieu. C'est ça la folie. Et du coup, voilà, comment nous fixer sur le Seigneur et marcher avec lui sur ce chemin de vérité. Et ça demande une conversion de chaque instant. C'est à quoi le Seigneur m'appelle et comment, avec lui, je peux être un serviteur.
Et aujourd'hui, Père, dans vos différentes missions de prêtre, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous tient vraiment le plus à cœur? Qu'est-ce qui compte beaucoup pour vous?
Alors là, je viens de faire un master en théologie du corps avec l'Institut Saint-Jean-Paul II de Lyon. C'est vrai qu'aujourd'hui, la famille me semble être un élément majeur. Et l'ouverture de l'année de la famille au 19 mars par le pape m'apparaît bien une bonne chose, d'autant plus que en prenant la fête de Saint-Joseph, il a rappelé l'importance de la paternité. Une paternité responsable. Alors, comme prêtre, notamment avec les histoires actuelles de l'Église, il nous faut nous rappeler aussi ce qu'est une paternité responsable pour ne pas partir dans des voies qui sont sans issue, c'est-à-dire toujours témoigner de cet amour de Dieu dans la gratuité du don et d'être au service, être disponible, être là où les gens ont besoin de nous. Comme le disait un jeune, il disait, c'est pas forcément les réunions qui nous intéressent, mais c'est que vous soyez là avec nous et qu'à un moment donné, on puisse poser la question qui nous fasse vivre. Alors, c'est vrai aussi que on accompagne aussi des catéchumènes au baptême et à la confirmation. Cette année, pour ma petite paroisse, nous atteindrons la quarantaine de confirmants adultes. Voilà. C'est un axe que j'ai essayé de développer dans la paroisse chaque année. On a fait plusieurs parcours de l'Esprit Saint. C'est comment vivre cette vie de l'Esprit, c'est-à-dire se laisser réchauffer au rayonnement de la grâce, se laisser réchauffer par ces dons de l'Esprit Saint et donc de les mettre en pratique. Et comment les uns et les autres, nous pouvons nous mettre au service et entendre ce que l'Esprit Saint nous demande de vivre. Et enfin, voilà, ce qui fait vivre dans la paroisse, ce qui me fait vivre, c'est ça, c'est de pouvoir partager mon ministère avec tous.
Et aussi, c'est la joie d'accueillir aussi tous ces adultes qui reviennent ou qui viennent même pour la première fois à la foi et qui demandent les sacrements d'initiation.
Oui, alors c'est absolument. Et ça, c'est... alors j'ai un groupe que j'ai accueilli, qu'on appelle le groupe Ephraim, qui dépend de la communauté mère du divin amour de Côte d'Ivoire, mais qui accueille, qui fait de l'évangélisation. Et ce que j'explique souvent aux paroissiens, parce qu'ils ne comprennent pas toujours, mais à la fin de l'évangélisation, j'ai un bon tiers qui s'en va avant la messe, et je leur dis, ben oui, parce que dans ce groupe de prière, ils ramassent, il y a des catholiques, mais il y a aussi des évangéliques. Les évangéliques viennent pour le temps de prière, mais ils ne restent pas toujours à la messe, ou au moins au début, ils n'y restent pas. Et peu à peu, ils y restent, ils demandent de pouvoir être admis à la communion de l'Église catholique, et voilà, ça refait des belles démarches. Et puis il y en a qui viennent de l'islam, qui n'étaient pas baptisés pour une raison X, Y, et qui demandent le baptême. Ou alors des gens qui ont arrêté le catéchuménat au pays, qui ont vécu l'émigration, et puis qui désirent repartir. Et donc c'est vrai qu'il y a le baptême et les mariages. Il y a 2 ans, j'ai fait plus de 12 mariages dans mon église. Enfin voilà, pour donner aux auditeurs, l'église Saint-Charles, c'est 9000 habitants.
Oui.
À Joinville-le-Pont, c'est ça. Donc voilà. Et la moyenne des mariages chaque année, c'est entre 2 et 3. Enfin, avant que j'arrive, quoi. pour dire que c'est vrai que là, les gens commencent à prendre conscience des choses. Mais je reconnais, par exemple, vous voyez, cette année, on a beaucoup de confirmations adultes, mais beaucoup, c'est parce que là encore, ils ont immigré, et puis au pays, une fois que vous aviez pu faire le catéchisme, ben, vous ne pouviez plus vous faire confirmer avant d'être marié. Enfin, c'était un peu compliqué, les exigences. Et donc, ils reviennent de 10 ou 15 ans après, ou 20 ans. On a ouvert cette fenêtre-là pour eux, et du coup, j'ai plein de gens qui reviennent. Plein de gens, clairement, d'Île-de-France, pas forcément de la paroisse. Et voilà, c'est une réalité aussi.
Eh bien, en tout cas, Père Grégoire, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps de partage, hein, sur votre témoignage personnel et aussi de prêtre.
Ah, voilà. Bonne journée, bon courage en tout cas à vous. Et puis, que le Seigneur nous accompagne tous sur ce chemin du ressuscité qui demande de l'accueillir pleinement et entièrement.
Merci, Père. Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Au revoir,
Père. Bon après-midi. Au revoir.